Salut Daniel, ici c'est Olivier, je suis en direct de la manifestation contre la guerre à la Bastide Murat. Alors on est une bonne vingtaine en comptant les enfants, mais c'est toujours pareil, les petits ruisseaux font les grandes rivières et même si on n'est pas nombreux, on se fait quand même entendre autant qu'on peut. Voilà, et ben salut à tous et puis faut pas qu'on lâche. Au revoir.
Bonjour là-bas. Le nombre de manifestants contre la guerre en Irak ne dépassera jamais le nombre de victimes de Saddam Hussein, dit M. Blair. Ok, mais ces milliers de victimes de Saddam, avec quelles armes, quel gaz ont-ils été assassinés? Qui a vendu ces armes à Saddam le bourreau? Mouton bel an que nous sommes à manifester pour la paix. Nous faisons le jeu de Saddam le dictateur. Au fait, lorsque des pays d'Occident tiennent une de ces ordures, vous voyez le capinoché, il le relâche. Ou il l'accueille comme Duvalier, Bokassa. Lorsqu'un responsable est condamné pour crime contre l'humanité, voire Papon, il le relâche. En France, lorsqu'un assassin est mis en prison, on a vu par le passé un ancien premier ministre et autres gros pontes intervenir et obtenir sa libération. Voyez l'affaire Calmels. Salut.
Oui, salut. C'est Jamal de Strasbourg à l'appareil. Je suis à la manif contre la guerre en Irak. Nous venons de démarrer de Place Clémer et je me retrouve avec les rats et les liens. Je ne sais plus quoi dire, je suis sidéré. Sidéré. Avec les rats et liens. Donc, il y a des clowns là, quoi, qui se baladent. Enfin bon, pas de commentaires.
À propos de nos philosophes à qui on avait reproché de rester silencieux, maintenant ils réagissent avec véhémence. Glucksmann pour la Tchétchénie. Henri Lévy pour Massoud. Oui, mais ce sont des musulmans qui sont loin d'Israël. On attend toujours leur réflexion philosophique sur les morts et les destructions systématiques de la Palestine. Poutine, Sharon, quelle différence? Au revoir.
Eh bien justement, ça tombe bien ce message de cette auditrice. Aujourd'hui, on va parler de la dissidence en Israël, des intellectuels, journalistes, observateurs, israéliens tout court, qui essayent de faire entendre une voix différente, une voix dissidente, qui essayent et qui y parviennent pas si mal que ça, afin de donner peut-être une autre idée du débat qui agite et qui secoue la société israélienne. Tout ça à l'occasion de la sortie d'un livre de Michel Warchavski et Michel Siboni, donc qui regroupe un ensemble de textes, de déclarations, de prises de position, d'analyses diverses et variées qui donnent d'Israël un tout autre aspect. En tout cas, on va essayer de faire entendre ces voix dissidentes à travers les voix de ceux qui ont organisé ce livre. Alors voilà, ben ce week-end de samedi et même dimanche, puisque dans les 600 villes du monde où les 10 millions de voix se sont fait entendre, eh bien pour une fois, c'est les opposants, c'est les dissidents qui étaient les plus nombreux. C'est pas toujours le cas, mais celle que nous retenons pour notre part, c'est une phrase entendue dans la manif à Paris, qui était « Chirac, si tu recules, on t'allume ». Donc aujourd'hui, les voix dissidentes en Israël, Michel Warchavski et Michel Siboni. Le livre s'intitule « À contre-cœur », cœur, C-H-O-E-U-R. Mais auparavant, deux ou trois autres messages, je crois, sur le répondeur de la basse édifice, 01 56 40 37 37.
Salut, c'est Lila. Je venais encore et encore une fois vous dire merci pour le témoignage de Jamila, qui dit « mon gigantesque moi ». Qui raconte avec les mots, les bons mots, parce qu'elle, elle a étudié, elle sait les mots qu'il faut. Elle nous dit, nous les beurettes, avec nos galères et nos grosses morflades.
Oui, bonjour, Youssef, consultant chez Datamag. Voilà, je viens d'écouter votre émission au sujet des immigrés et de l'intégration. Ben, moi, j'ai une petite anecdote. J'ai suis français de nationalité, moins de naissance, je pensais. Mes parents ne le sont pas, ils sont algériens tous les deux. Et quand j'ai dû faire ma carte d'identité il y a très peu de temps, là, On m'a demandé, quand j'ai présenté mon ancienne carte d'identité, la jaune blanc cassé, on m'a demandé de justifier de ma nationalité française. Et quand j'ai demandé la carte d'identité sert à quoi, on m'a dit ça justifie pas. Donc le malaise, en fin de compte, c'est que je devais justifier que j'étais français avec une carte d'identité française. Ça fait 36 ans que je suis en France, je suis né en France. Donc il a fallu que j'aille au tribunal d'instance pour avoir un certificat pour prouver ma nationalité. J'espère que ces choses-là ne se feront plus un jour. Ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Michel Siboni et Michel Warchavski à contre-cœur.
Flight number 2, arriving from New York.
Rome, Londres, Sydney, New York, Paris, ce week-end, 10 millions de manifestants, 10 millions dans le monde, la mondialisation du refus à la boucherie, dont les conséquences seraient ou seront catastrophiques pour le Moyen-Orient, pour le Proche-Orient, pour le monde tout entier, conséquences imprévisibles, incontrôlables, à moyen comme à long terme. Mais cette fois, dans l'opinion, c'est vraiment trop gros, ça ne passe pas. Cette fois, bobards et médias mensonges ne sont pas avalés par les veaux que nous sommes. Et aux États-Unis et en Grande-Bretagne, coups de bluff, fausses infos, fausses alertes, faux rapports se multiplient et les médias relais complaisamment, mais le conditionnement de l'opinion rencontre une certaine incrédulité. La ménagère de moins de 50 ans traîne un peu les pieds. Pourtant, les fois précédentes, Timișoara, Kosovo et Première Guerre du Golfe, nous avons marché à fond dans ces médias mensonges relayés par des médias aux ordres, avec cette morgue et ce cynisme qui, exceptionnellement, semble s'être très provisoirement éclipsé. Chirac, si tu recules, on t'allume, disaient des manifestants samedi dernier. Il se trouve que les commentaires sont nombreux, évidemment, sur ces manifestations, et il en est de singulier. Ainsi, pour certains, ces manifestations à travers le monde étaient absolument, franchement et carrément antisémites. Et oui, et pourquoi non ? Parce que dans certaines manifestations, le nom de Sharon a été associé à celui de Bush. Et qui dit toucher à Sharon dit toucher à Israël, qui dit toucher à Israël dit toucher aux Israéliens, et qui dit toucher aux Israéliens revient à toucher à tous les Juifs vivant sur cette planète aujourd'hui. Ce sont des raisonnements aussi grotesques, aussi pathétiques que cela, qui quand même se font entendre et qui vont, j'espère aujourd'hui, être opposés à une autre musique. Une autre musique, celle des dissidents, non pas des opposants en France, mais en Israël. Les voix dissidentes en Israël, car il y en a, à la politique actuelle du gouvernement israélien, à la politique menée par Ariel Sharon. Et ces voix dissidentes, Michel Warchavski et Michel Siboni les ont regroupés à l'intérieur d'un ouvrage qui est publié aux éditions textuelles qui s'intitule « À contre-cœur » et qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont marqués forcément à l'extrême gauche, à gauche, dans le monde laïque ou je ne sais quelle obédience bien claire et bien repérée. C'est simplement des hommes, des femmes, des observateurs, des religieux ou non, des militaires ou non, des Israéliens en tout cas, qui sincèrement s'opposent à la politique conduite actuellement dans leur pays. Les voix dissidentes d'Israël, en Israël, c'est dans la basse Jiskui jusqu'à 18h. Michel Barchavsky, pourquoi est-ce que cette dissidence ne nous parvient pas jusqu'ici, vous qui êtes israélien mais qui connaissez bien notre petit hexagone, pour y être né?
Mais je crois que la motivation première de qui était la nôtre en faisant et en essayant de faire publier ce choix de texte qui s'exprime en Israël et souvent dans les médias à large diffusion, et ce silence qui existe ici en France, qui est le résultat d'une véritable campagne de terrorisme intellectuel qui veut empêcher que s'expriment des voix critiques ou que se fassent entendre les voix critiques qui existent en Israël. Et ce fossé qu'il y a entre une pensée unique qu'on voudrait imposer ici et un débat très large et tout à fait ouvert en Israël, je pense qu'il était important d'en parler ici en France et de donner des exemples de positions qui en France seraient attaquées par les mêmes personnes qui ont attaqué Daniel Mermet, José Bové et d'autres. Et en Israël apparaissent dans le quotidien Yediot Ahronot, le plus grand quotidien du pays, par des journalistes professionnels ou des intellectuels très prisés. On a fait le choix de donner, je crois, plus de 60%, 70% des articles viennent des grands quotidiens. Mmh. C'est-à-dire, ce sont des positions qui s'expriment face à un public très large, par des journalistes, entre autres par des journalistes professionnels de ces mêmes journaux. Et ce débat, il est partout, on le rencontre à la télévision, on le voit dans les médias, on les voit dans les universités. Ce n'est qu'une petite partie qu'on a pris de l'Internet, là où on cherchait des analyses un peu plus pointues. Mais là aussi, on a fait attention, dans la plupart des cas, de faire parler des gens qui eux-mêmes apparaissent dans les médias. Donc, de ne surtout pas en faire une expression de gens marginaux qui mèneraient un discours entre eux, mais au contraire d'un élément constitutif du débat israélien.
Michel Simoni, vous avez participé au choix des textes, aux traductions aussi, hein. Pas mal, parce qu'il y a tout un boulot de traduction aussi. Comment vous avez construit et orienté le travail?
Ma part dans ce travail, en tout cas ce que je crois, c'est qu'elle a été d'être une sensibilité un peu française. Qu'est-ce qui peut être entendu ici qu'on n'entend pas d'habitude? Ici, c'est le réseau militant qui s'est chargé souvent de faire connaître les voix dissidentes israéliennes, mais pas le réseau public. Mmh, et ça a été aussi, par exemple, le choix de parler des activistes israéliens, de montrer l'expression militante sur le terrain en Israël.
Parce qu'on est un peu surpris. Il y a des sujets que vous abordez qui sont pas du tout abordés dans les grands médias français.
Non.
Pourtant, Dieu sait encore une fois si c'est un sujet auquel les Français sont attachés. Prenons par exemple un domaine que vos intellectuels ou journalistes israéliens abordent, qui est le thème du transfert. Hein, on sait ce que c'est que ce transfert. C'est la on envisage sérieusement actuellement en Israël de transférer...
Transfert, c'est l'expression israélienne pour dire expulser.
Expulser massivement les Palestiniens des territoires. Ce qui semble absolument, évidemment, monstrueux, mais c'est quelque chose dont on débat publiquement actuellement, oui. Et s'opposer à ce transfert en Israël fait de vous un dissident, Michel Warshawski.
L'idée du transfert, qui existe depuis très longtemps dans le discours politique israélien, était marginale. Aujourd'hui, elle est dominante. Et d'ailleurs, visuellement, sur les routes d'Israël ou dans les grandes villes d'Israël, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'affiches diverses, derrière lesquelles se retrouvent des partis au gouvernement, pas des petits groupes fascistes d'extrême droite, des partis au gouvernement, qui appellent au transfert, un slogan qui dit « La Jordanie, c'est l'État palestinien, transfert maintenant », un autre qui dit « 250 000 sont déjà partis », c'est une exagération, il y a un peu plus de 100 000 Palestiniens qui ont quitté au cours des dernières années, « 250 000 sont déjà partis, les autres doivent les suivre, transfert maintenant », eux chez eux, nous chez nous, transfert, c'est partout, c'est une position. Et Ariel Sharon, d'ailleurs, a refusé de s'engager à la demande des États-Unis devant les autorités jordaniennes. On leur lui demandait de promettre qu'il n'y aurait pas de transfert en Jordanie ou à travers la Jordanie, parce que l'objectif le plus vraisemblable dans les scénarios mis en œuvre par l'armée, ce serait l'expulsion ou l'épuration ethnique, en fait, de plusieurs centaines de milliers, voire d'un million de Palestiniens vers l'Irak, vers le sud de l'Irak. C'est un vieux plan qui n'a jamais été caché, mais aujourd'hui on en parle tout à fait concrètement et la Jordanie ne serait qu'un point de passage. Mais je voudrais ajouter une chose sur cette question. Moi, personnellement, ce qui me fait encore plus peur que ce grand transfert, c'est le petit transfert qui est, lui, en route, à savoir, en toute cohérence avec le plan Sharon, celui de la cantonisation, de réduire la présence et l'existence palestinienne dans une demi-douzaine de cantons séparés les uns des autres autour des grandes villes, profiter de la guerre contre l'Irak, profiter de l'écran de fumée que cette guerre offrirait à Israël pour nettoyer toute la zone C, 50% de la Cisjordanie, vers les zones A et B. Un transfert de l'autre côté du Jourdain, c'est un rêve, c'est un fantasme, c'est des plans aussi, mais ça demande toute une série de considérations qui ne sont pas toutes sous le contrôle israélien. Par contre, profiter de la guerre, et certainement, si, comme par hasard, un grand attentat devait avoir lieu à Tel Aviv ou ailleurs, pour nettoyer les quelques centaines de villages qui existent hors des zones A et C, et de concentrer l'essentiel de la population palestinienne dans les zones, que Sharon, lui-même, est prêt à considérer comme un État palestinien. Et il le dit, il le répète, il n'est pas contre l'État palestinien dans ces zones. Et le reste devrait être totalement vidé de sa population arabe pour permettre la poursuite de la colonisation.
Va durer cette blessure. Non aux négociations, non à la coordination sécuritaire avec les Israéliens. La lutte armée est le seul moyen. Réfugiés, nous le sommes, réfugiés, nous continuons à l'être. L'intifada continue jusqu'à l'indépendance et le retour des réfugiés. Nous allons mourir debout, jamais nous rendre. Continuons notre résistance, notre lutte. C'est autour de ce camp où il y a les réfugiés.
Ce qui frappe dans les textes que vous publiez, les textes de journalistes ou d'intellectuels israéliens, c'est la vigueur et la liberté des textes. Alors, quel est l'impact de ces textes sur l'opinion? C'est que vous avez bien arrivé à comprendre.
C'est difficile à juger.
C'est ce qui revient un peu à vous demander quel est l'état de l'opinion un petit peu en Israël aujourd'hui. Quel est le moral des Israéliens un peu?
Je dirais qu'il y a encore en Israël une majorité, ou une très forte minorité en tous les cas, et les sondages le confirment, d'hommes et de femmes, de citoyens israéliens, qui ne s'identifient pas au plan Sharon, au plan de l'extrême droite, qui ne sont pas prêts à mourir ou pour les colonies, pour qui l'idée d'un État palestinien indépendant en Cisjordanie et le retrait de l'armée israélienne de ces territoires devrait être un objectif, mais c'est la raison de l'implosion, je dirais, du mouvement de la paix israélien, mais a été convaincu par un discours mensonger qui a été démasqué à plusieurs occasions, entre autres par Charles Anderlin, des offres généreuses de Barak qui ont été rejetées par les Palestiniens, c'est-à-dire il n'y a pas de partenaire. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est donc une partie importante de l'opinion publique qui n'a pas changé ses positions idéologiques, qui n'est pas devenue hyper nationaliste et s'identifiant aux colons, loin de là, mais qui soutient la politique de Sharon, et c'est la contradiction dans les sondages, soutient parallèlement la politique de Sharon, parce que face à nous, nous avons un peuple terroriste, une direction terroriste, qui veut nous jeter à la mer. Et cette partie du discours mystificateur de Barak est encore très, très influente dans l'opinion publique et dans la partie plus modérée de l'opinion publique.
Une voix dissidente en Israël, celle de Michel Warshavsky, qui publie avec Michel Siboni aux éditions textuelles un ensemble de textes de la dissidence israélienne. Il y a un cœur largement consensuel qui accompagne la politique du gouvernement Sharon, et les voix dissonantes en Israël ont du mal à se faire entendre. Elles sont tout de même écoutées en Israël, mais elles ne dépassent pas, semble-t-il, l'espace israélien. Dans les médias chez nous, on entend peu ces dissidences, ces contre-courants. Voilà pourquoi ce livre, où une soixantaine d'articles, de discours, de pétitions qui viennent du monde artistique ou du monde médiatique, universitaire, mais c'est aussi, je disais, des militaires parfois, des féministes, et puis aussi des Arabes israéliens, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une partie, 20% environ de la population israélienne est constituée d'Arabes israéliens, qui eux aussi s'expriment dans cet ouvrage. Il faut rappeler que Michel Warshavsky est israélien, d'origine française. Il est un vieux militant de la paix, du rapprochement israélo-palestinien depuis 68, ça fait plus de 30 ans que Michel Warshavsky se bat sur ce terrain, et il est président du Centre d'information alternative de Jérusalem. On l'avait reçu pour un ouvrage très beau qui s'appelle Sur la frontière, qui a eu un certain nombre de prix, dont le prix RFI. Et puis aussi s'est associé à ce travail Michel E. Siboni, qui est vice-présidente de l'Union juive française pour la paix, à contre-cœur. On va prendre un certain nombre d'auteurs, de journalistes ou d'intellectuels que vous avez choisi, on va dire. Il y a tout de suite une figure qui s'impose, c'est celle d'Amira Haas, qui est une reporter du Haaretz et qui vit, elle, depuis des années dans les territoires. Elle est l'une des seules journaliste israélienne à vivre en permanence.
Elle est la seule. C'est un choix de parler de la Palestine, des problèmes de la Palestine, des problèmes de l'occupation de l'intérieur. Et un choix qui demandait beaucoup de courage, et pas simplement face aux militaires ou face à d'éventuels attentats. C'est d'essayer de donner un angle de compréhension du conflit israélo-palestinien du point de vue de la vie quotidienne, je dirais, des Palestiniens. Et elle l'a fait, Amira Haas l'a fait avec beaucoup de succès, à Gaza d'abord, puis en Cisjordanie, précisément au moment où en Israël on vivait encore l'illusion de la paix. Elle l'a fait en disant, nous vivons dans un monde, nous Israéliens, nous vivons dans un monde, les Palestiniens vivent dans un monde tout à fait différent. Ils ont fait le deuil de la paix, ils n'y croient plus. On les a humiliés, on a triché sur les engagements pris, on n'a pas rempli les engagements pris, on les a enfermés à travers le bouclage qui existe depuis le début du processus de paix, et tant que les Israéliens ne comprendront pas comment les Palestiniens vivent ce que nous croyons être la paix, nous serons dans un malentendu qui ira en grandissant et qui explosera. Et c'est ce qui s'est passé en l'an 2000.
Alors d'autres textes dans à contre-cœur, Michel Siboni, des textes de B. Michael, un auteur qui s'appelle B. Michael, qui serait interdit en France. Hein. C'est très violent. C'est très violent. Il y a des allusions à la Shoah. Il rapproche ce qui scandalise à juste titre, évidemment, à juste titre, un bon nombre d'observateurs français. Il rapproche la politique israélienne du pire.
Bon, d'abord, en préambule, j'ai envie de dire que c'est très important de comprendre en lisant ce livre qu'on y trouve des textes de gens qui s'adressent à leur public. Ce sont des Israéliens qui parlent à des Israéliens. Et ce sont des voix dissidentes à l'intérieur de la société israélienne qu'on sort de leur contexte pour les montrer en Europe et ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que Beth Michael, qui est un homme religieux, profondément religieux, et qui est un éditorialiste connu et plutôt virulent.
Ah bah oui, si.
Mais aussi connu pour des satires ou des textes comiques, si je me trompe pas.
Ah oui, il avait un programme de télévision le plus marrant qui a duré des années. Il est très populaire et il est fils de rescapé.
Et c'est un fils de rescapé de la Shoah. Et le fait qu'un homme comme lui s'exprime avec tellement de violence et de douleur en disant « Mais nous, ce que nous avons vécu et ce que nous avons subi, regardez, nous sommes en train de le faire vivre et de le faire subir », c'est interdit, d'abord en France, de dire une chose pareille.
Pour Edgar Morin, qui a dit dans le bourreau d'aujourd'hui, la victime d'hier, pour cette phrase écrite dans Le Monde, cette citation de Victor Hugo dans Le Monde par Edgar Morin,
procès.
Il est poursuivi, il y a des poursuites entamées contre Edgar Morin et le journal Le Monde.
Non. Alors le simple fait qu'en Israël, ce débat évoque couramment à l'intérieur des textes qui circulent en Israël, c'est pas un argument interdit. On peut le dire et on peut l'écrire. Et Beth Michael n'est pas menacé de mort, que je sache. Il n'est pas poursuivi. Et en soi, c'est intéressant.
Voix dissidente en Israël, des journalistes, des intellectuels, mais aussi aussi des gens, des jeunes qui manifestent leur dissidence comme ces objecteurs de conscience. Il y en a en Israël qui s'opposent et qui expriment leur opposition. Israël est une démocratie. Et la preuve, ce garçon, Shmulik, que nous avions rencontré avec Guy Van Til en mai 2001.
De mon point de vue, était très dur. Plus mentalement que physiquement. La première chose, c'est... Je ne voulais pas faire partie d'une armée occupante. Les choses qu'Israël comme pays et l'armée appliquent sur le terrain, ces choses qu'on fait dans les territoires occupés, en fait, comme couper l'eau aux Palestiniens, oui, ou les confiscations de terres, ou déraciner des arbres, la violence qui est mise en œuvre contre des civils, contre des groupes et contre la société palestinienne en tout. L'image qui se dessine sur le terrain, c'est que des colons vivent sur des territoires qui étaient par le passé palestinien et ont été conquis par les juifs, et un petit groupe de soldats qui les défend. Tout ça, moi, je voulais pas y prendre part. Je ne pense pas que la violence se résolve par la violence. Mark Twain a dit en son temps que si le seul outil que tu as, c'est le marteau, alors chaque problème semblera être un clou. À partir du moment où la violence est ton outil, alors chaque problème, tu le résoudras par la violence. On peut être aussi bon que possible à partir du moment où on occupe un autre peuple. Moment, si on peut décider si l'autre homme pourra boire, s'il pourra manger, s'il pourra aller travailler, s'il aura de l'électricité, s'il pourra prendre sa famille à l'hôpital, s'il pourra prendre sa famille dans un autre pays. À partir du moment où la meilleure des personnes a ce pouvoir-là entre ses mains,
Il n'y
a pas beaucoup de chances qu'il sorte de cette situation-là de façon positive. Le problème, c'est que ça fait depuis des années que le peuple juif en Israël détient ces clés-là dont je viens de parler, les clés du peuple palestinien. C'est ce qui se passe.
Si votre seul outil est un marteau, tous les problèmes pour vous ressembleront à un clou. La phrase de Mark Twain prononcée par cet objecteur de conscience, ce jeune objecteur de conscience rencontré à Jérusalem en mai 2001. Voilà, pour accompagner cet ouvrage qui sort donc Les voix dissidentes en Israël, intitulé à contre-cœur chez Textuel. Effectivement, beaucoup de textes en France, le chantage à l'antisémitisme a eu pour effet d'inhiber la critique, d'inhiber le débat, de menacer. Mais en Israël, le débat a lieu. Il y a une dissidence qui s'exprime et des auteurs et des journalistes et toutes sortes de citoyens israéliens qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent et qui se retrouvent une partie, au moins une soixantaine, dans ce florilège, appelons ça comme ça, de la dissidence israélienne. Réunis par Michel Siboni et Michel Warchavski. Je voudrais évoquer la figure d'un dissident fameux qui s'appelle Uri Avneri, qui publie des textes extrêmement clairs, pédagogiques, très engagés, et qui est une des grandes figures de la scène intellectuelle israélienne.
C'est à mon avis, Uri Avneri est un exemple intéressant parce que il est le père de loin, c'est reconnu unanimement en Israël, le père du véritable journalisme israélien. Ce qu'on a connu dans les années 50, c'était une presse entièrement soumise à l'État, une presse de parti, d'abord de parti au pluriel, et soumise à l'État. Uri Avneri, en prenant l'initiative du Olamazé, cet hebdomadaire qui mélangeait les scandales, c'est un peu le canard enchaîné, mais un peu de sexe, du sexe soft de l'époque.
Ah bon?
Et une très bonne information, exactement comme le canard enchaîné qu'il recevait par des fuites qui venaient de l'intérieur, mais que personne ne pouvait assumer publiquement. Il n'y a pas un journaliste, qu'il soit de gauche ou de droite, qui a plus de 45 ans, qui n'a pas fait ses classes dans Olamazé. C'est donc une personnalité, c'est aussi un combattant de la guerre de 48, il a été dans ce qu'on appelait les renards de Samson, qui étaient les unités de choc du front sud, il a été gravement blessé, et quelqu'un qui a été au cœur, je dirais, de l'establishment israélien, même si critique, même si oppositionnel dans les années 50, 60 et 70. Uri Avneri a fait le choix, parce qu'il y a eu l'âge de la retraite, de s'engager à 100% dans le soutien à l'idée d'un État palestinien indépendant et dans la lutte contre l'occupation. Uri Avneri, c'était un des débats que j'ai souvent eu avec lui, était un inconditionnel des accords d'Oslo. Il était persuadé que c'était une formule pas idéale, mais qui avait toutes les chances de marcher et qui, en fin de compte, nous amènerait tous à ce à quoi on rêve, à une coexistence pacifique, dans le respect mutuel. Uri Avneri a été le premier à comprendre, et il le dit dans un des textes, à quel point le discours de Barak après le fiasco de Camp David sur les offres généreuses était un discours mensonger et qu'il allait détruire tout ce qui avait été construit. Et aujourd'hui, Uri Avneri est dans une rage. Il produit énormément, il écrit dans le Maariv jusqu'à aujourd'hui, moins qu'avant. Maariv, qui est le deuxième quotidien israélien. Nous avons choisi des textes un peu plus larges, qui sont en général les mêmes articles qu'il publie dans le Maariv, mais plus élaborés, qu'il publie dans le site de l'association qu'il anime, le blog de la paix, le Gush Shalom, où il démonte tout le processus qui a mené à cette mystification et comme très bon journaliste qu'il est, offre un miroir de la société israélienne. Le texte Judée-Israël, la Judée contre Israël, c'est un des meilleurs textes à mon
Absolument.
Avis.
Absolument, oui, c'est un texte clé.
C'est un texte clé parce qu'il montre qu'il y a eu en Israël une véritable révolution, mais révolution dans le sens d'un nouvel État, d'une nouvelle société qui se façonne, qui est quelque part, même si on peut trouver des éléments de continuité, la contradiction de ce qu'était le projet originel des pères fondateurs dans lesquels il se reconnaît.
Michel Warchavski, vous venez souvent en France, vous êtes d'origine française, vous êtes israélien maintenant. Michel Siboni, vous êtes française, vous êtes vice-président de l'Union juive française pour la paix. Comment vous expliquez tous les deux que la collectivité juive en France se fasse une idée aussi fausse de la réalité israélienne? L'ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, récemment, à la fin de sa mission d'ambassadeur en France, a publié une petite lettre. Lettre ouverte aux Juifs de France, à peu près, hein, c'est ça le titre. Oui, où il dit aux Juifs de France, vous vivez un sionisme désespéré. Comment se fait-il que cette image d'Israël soit à ce point embellie par les Juifs français qui ne comprennent pas ces réalités, que ces réalités, tout se passe comme si ces réalités ne leur parvenaient pas?
Écoutez, il y a sûrement beaucoup d'explications très complexes. Les premières qui me viennent à l'esprit, c'est... Quand on parle du sionisme et d'Israël, on parle de 50 ans. C'est très peu. Et c'est le temps des mythologies, c'est pas le temps des histoires. Donc, je suppose que le judaïsme français, comme les autres, a vécu ces mythologies. Moi, j'ai vécu un peu en Israël. Ce qui m'a permis assez rapidement de commencer à me poser des questions sur les histoires qu'on m'avait racontées. Mais les histoires, pas l'histoire. Et donc, quand les nouveaux historiens israéliens ont commencé à éplucher le sionisme en travaillant sur archives, sur documents, et non plus sur les histoires du sionisme, j'ai été très intéressée, comme le public israélien a commencé à être intéressé. Je crois que le public juif français est encore dans la mythologie, et que le contre-coup... Enfin, on est dans une deuxième mythologie qui est en train de se fabriquer. Comme à l'époque, on disait, comme mes parents disaient, mais les Juifs, ils veulent la paix, mais Israël veut faire la paix avec le monde arabe, ils proposent la paix sans arrêt, c'est les Arabes qui veulent pas, etc., etc. On est en train de fabriquer une mythologie suivante. Et aussi, je crois qu'on est dans des discours de propagande, des discours de propagande de guerre, qui arrivent aussi en France.
Michel Warchavski, votre explication là-dessus?
Moi, je voudrais mettre...
La façon dont les Juifs français voient Israël.
Je crois qu'il y a d'abord, dans une partie du judaïsme français, une partie qui est aujourd'hui assez dominante dans la partie organisée du judaïsme français, on continue à régler les comptes de la guerre d'Algérie. Et je le vois dans pas mal de colons, des colons durs qui vivent à Hébron, qui vivent à Netzarim, qui sont, pour une partie d'entre eux, pour une partie importante d'entre eux, d'origine, qui sont juifs d'origine nord-africaine, il y a un compte à régler avec les Arabes, qui n'est pas encore réglé, en particulier les juifs originaires d'Algérie. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une fascination de la force. Elle existait dans la génération de mes grands-parents. Le nouvel israélien qu'on admirait, ceux qui avaient souffert de l'antisémitisme en Pologne, ou qui avaient souffert de l'antisémitisme pendant la période nazie, ici en Europe occidentale aussi, se retrouvaient dans ce nouvel israélien qui avait la force avec lui et qui peut-être n'était pas toujours dans son bon droit, mais le bon droit, on avait vu à quoi ça servait et à quoi ça menait. Mais c'était plus dans un fantasme, plus dans une admiration. Là, c'est plus fort que ça. C'est une nouvelle génération qui s'identifie véritablement et publiquement et d'une façon militante avec cette politique hors la loi d'Israël, qui rejette publiquement, cyniquement, je dirais, le droit international, les conventions internationales, et cela provoque une admiration. Mais on le voit même chez certains intellectuels français, ex-de gauche, avec quelle facilité ils pardonnent, ils soutiennent le déni de droit dans la politique israélienne, les assassinats extrajudiciaires, les destructions, les punitions collectives, même l'idée de transfert. Dans une espèce de fascination par rapport, il y a véritablement quelque chose de ce type de fascination par rapport à Israël. Et le troisième élément, il y a aujourd'hui, et je le dis en citant une des personnalités juives de premier plan, M. Kuckermann, le président du CRIF, il y a une véritable, il l'a dit dans une interview à Haaretz, il l'a dit comme une suggestion qu'il avait fait à Ariel Sharon, il faut mener une campagne de propagande systématique pour remobiliser l'opinion publique juive d'abord et internationale ensuite. Et tous les moyens seront bons, il utilise même le concept des moyens de Goebbels. C'est ce monsieur qui le dit. Et dans cette campagne, il y a des gens qui en ont fait un fonds de commerce. Et je le dis et je le répéterai. Il y a parmi les intellectuels français, pour la plupart d'origine juive, mais pas tous, des gens qui mènent ce combat. Ce combat leur a redonné une nouvelle visibilité qui n'avait plus ni dans les certains cercles universitaires ni dans les médias, et qu'on retrouve maintenant à la une de tous les journaux et tous les jours à la télévision. Ils ont trouvé le bon filon.
Alors, ce qui est extraordinaire dans ce que vous publiez à contre-cœur, des voix dissidentes d'Israël, c'est que beaucoup des textes que vous publiez, qui sont des textes, encore une fois, d'intellectuels, de chercheurs ou de journalistes israéliens, feraient scandale en France. Pas seulement comme les textes de B. Michael qui font des rapprochements avec les, on va dire avec les années noires, et ce sera faire un euphémisme, mais avec simplement un texte d'Uri Avnery qui s'appelle 12 réponses à 12 mensonges, etc. Des textes comme ça feraient scandale, ça susciterait 12 réponses dans les jours qui viendraient, etc. Qui serait bien d'ailleurs pour nous, parce que on aurait un vrai débat qui se limiterait pas à savoir si tel ou tel est antisémite ou non, où celui-là est hanté par la haine de soi, ce qui a imposé au débat sur le Proche-Orient en France un état de politiquement correct et d'intimidation, on aurait un véritable débat. Or, ces textes-là, alors que nous n'avons pas, nous, ici, alors on est quand même à l'arrière, on n'a pas l'excuse d'un quelconque chaos.
Oui, alors là, je voudrais dire la raison souvent d'un véritable mépris que je ressens face à certaines personnes qui, dans le monde médiatico-intellectuel en France, parle au nom d'Israël et mène le combat, ce combat terroriste contre toute voix critique par rapport à Israël. La grande différence entre Beit Michael, Uri Avnery, Meron Benvenisti, Shulamit Aloni, l'ancienne ministre de l'Éducation, Michael Ben Yair, que nous citons ici, qui est l'ancien procureur général du pays, c'est qu'il parle d'une véritable souffrance et d'une véritable responsabilité face à cette société, alors qu'ici c'est du luxe de salon. Pourquoi, si on lit Beit Michael ou si on lit Michael Ben Yair, il sent que nous allons à la catastrophe. Et il, en ce sens-là, il me rappelle les prophètes que je lisais dans mon enfance, les prophètes de la Bible. Il essaye de réveiller par tous les moyens, ils essayent de réveiller par tous les moyens, nous réveiller, réveiller notre communauté, notre société, en disant nous allons à la catastrophe. D'où la virulence des propos. Mais elle vient, et on le sent même dans la traduction, cela vient du fond des tripes, cela vient d'un sentiment de catastrophe pour nos enfants, pour leurs propres enfants, pour leurs petits-enfants. Alors que les Tarnero et autres Landsmann, ils ne s'engagent à rien. Ils mènent un débat purement abstrait, où ils se permettent à donner des notes. Et alors ils donneront certainement échoué à toutes les personnes citées ici, parce qu'ils n'engagent rien, ils ne s'engagent à rien, ils sont bien au confort dans leur salon parisien, bien au confort dans les studios de toutes les chaînes de télévision, qu'ils terrorisent pour qu'on puisse leur donner la parole. Et certains, si, on n'entendrait plus parler d'eux s'ils n'avaient pas ce fonds de commerce. Et quoi qu'il arrive, ils n'auront rien à payer.
Il y a un texte particulièrement bouleversant, d'une femme qui s'appelle Nourit Pellet Elkanan. C'est un texte court sur les enfants. Hein. On peut évoquer sa figure,
Michel Simoni. Pellet, c'est la fille du général Pellet, qui s'était distinguée par son refus d'obéir aux ordres pendant la guerre du Liban.
Il n'était plus général. Pris une position ferme d'opposition à la guerre du Liban. Et il a été la première personnalité israélienne avec Uri Avnery à rencontrer Yasser Arafat.
Ce qui est arrivé à Nourit Pellet, c'est que sa fille de 15 ans, je crois, une très jeune adolescente, a été tuée dans un attentat à Jérusalem. C'est un drame personnel, mais qui l'a fait réagir, qui réactive en elle une douleur d'une humanité extraordinaire. Je sais que je suis incapable de lire ce qu'elle écrit sans pleurer, parce que c'est une femme qui se reconnaît dans des valeurs humanistes. Elle a, par exemple, je crois qu'elle est liée, ou sa famille est liée à Netanyahou, et Netanyahou, au moment où sa fille est morte, voulait venir lui présenter des condoléances, et elle lui a dit non, pas question. J'accepte pas de condoléances des gens qui sont responsables de la mort de ma fille. Et ce qu'elle essaye de montrer, c'est le nouveau monde qui est en train de se dessiner, dans lequel nos enfants, dit-elle, les enfants palestiniens et les enfants juifs, sont en train de mourir et de payer le prix du sang.
Comment vous ressentez la situation actuellement ?
Désespérant. J'ai perdu l'espoir, j'ai perdu le courage.
Nourit Pellet.
Non, c'est fini.
mai 2001. Vous avez parlé, tout le monde vous a, vous avez ému tout ce.
Oui, parce que je reconnais la valeur de mes paroles, je reconnais la valeur de mon apparence, parce que je suis une femme qui a perdu son enfant. Et j'ai accusé le gouvernement d'Israël de ce meurtre, et pas les Palestiniens.
Vous l'accusez comment? Sur un plan moral ou sur un plan juridique ou sur un plan...
Sur tous les plans, parce que je crois que les organisations terroristes et les suicidaires sont la création du gouvernement d'Israël, du régime et de l'occupation. Avant l'occupation, ils n'étaient pas là. Alors c'est les mauvaises herbes de l'occupation. Et je crois que le régime israélien encourage ces organisations pour nous convaincre qu'il n'y a pas d'espoir et qu'il n'y a pas de chance pour faire la paix avec ces gens-là.
Quelle serait la solution sur le plan politique?
La solution est claire, je crois. Si les Israéliens sortent des territoires occupés, s'ils laissent le Jérusalem Est aux Palestiniens, s'ils leur permettent d'occuper la montagne là, en question.
Le Golan.
Ouais. Et là, il y aura de paix. Mais il n'arrive jamais jusque-là. Il y a toujours quelque chose qu'il ne veut pas. C'est toujours quelque chose d'idiot, de symbolique. Et puis, bien sûr, le droit de retour. On peut pas avoir le droit de retour des Juifs sans avoir le droit de retour de Palestiniens. Parce que s'il laisse un point de racisme, un petit trou de racisme, un petit trou de discrimination, ça ne va pas marcher.
Michel Barchaski, est-ce que vous pensez aussi que si Israël court un danger actuellement, c'est un danger moral?
C'est un danger moral, un danger politique, je dirais même un danger militaire. Quelque part, j'ai le sentiment, et on le voit dans certains des textes, que les freins ont lâché, qu'il n'y a plus de freins, et qu'on est sur cette pente extrêmement glissante, qui au bout il y a l'abîme, parce que même si le rapport de force...
Vous parlez de Massada, la chute de votre préface.
C'est Massada, mais c'est ce que ressentent beaucoup de ceux qui écrivent là-bas. En ce sens-là, j'entends les prophètes parler à travers eux. Israël est une puissance nucléaire, une grande puissance économique, même si actuellement il y a une grave crise économique. Le rapport de force avec les Palestiniens est disproportionné, c'est un rapport de 100 à 1. Et même le rapport de force directement immédiat avec le monde arabe et avec le soutien inconditionnel des États-Unis est totalement en faveur d'Israël. Mais en dernière analyse, et c'est ce qu'écrivent Shulamit Aloni en particulier, nous sommes 6 millions de personnes entourées de 180 millions d'Arabes et d'un milliard de musulmans. Croit-on que cette croisade, et on parle de croisade en Israël, de djihad, cette guerre que nous menons contre, parce qu'en Israël, on le dit, c'est une guerre contre la civilisation islamique. Ce que ne dit pas Bush, mais dit certains de ses conseillers. Croit-on que cette guerre, on va la gagner? On est une infime minorité dans un monde arabe qui dort aujourd'hui. Mais c'est un géant qui se réveillera. Et il n'a besoin que de s'ébrouer pour réduire à zéro l'existence israélienne. C'est pourquoi on parle avec une irresponsabilité grave. Et je répète, l'irresponsabilité de ceux qui caressent Israël dans le sens du poil, d'une irresponsabilité par rapport à nous-mêmes, de l'usage de la bombe nucléaire. Alors c'est vrai, on pourra détruire toutes les capitales arabes. Mais il suffira d'une bombe non nucléaire, de rien du tout, pour détruire Israël à jamais. Ça, c'est ce qui motive la plupart de ceux qui écrivent ici, ou de ceux qui agissent, comme c'est dans le dernier chapitre. Ce sentiment clair, cette évidence d'une catastrophe. Le discours discours moral, le discours juridique ou du non-juridique qui s'accroche à cette conception politique du conflit généralisé entre nous et la civilisation arabo-musulmane, a des effets immédiats extrêmement dramatiques. On l'a vu avec quelle légèreté des parlementaires, pas des juges, ont exclu du jeu électoral des députés arabes. C'est l'honneur de la Cour suprême d'avoir dit non, on joue encore le jeu démocratique. C'est vrai qu'elle est mal en point. Mais il faut encore la jouer. On est dans une situation où il n'est pas du tout évident qu'Israël restera un État parlementaire avec des règles démocratiques, même si souvent bafouées, avec des discriminations structurelles vis-à-vis de la population arabe, mais qui quand même participe de certains mécanismes qui appartiennent au monde démocratique. Avec une rapidité fulgurante, et toute la partie qui s'appelle la honte dans ce livre le décrit sous des angles divers et par des personnes d'opinion très diverses, on remet en question ce qui a quand même été une certaine fierté pour Israël dans son système politique, dans ses références morales. Tout ça semble en train de disparaître avec une rapidité surprenante.
Alors voilà les voix dissidentes d'Israël. Maintenant, on va parler des organisations. Hein. Michel Warshavski, Michel Siboni. Alors, il y en a qui sont très connus, comme Yesh Gvoul, par exemple. On avait l'occasion de faire des reportages avec eux, c'est-à-dire les objecteurs de conscience, ceux qui refusent d'y aller, de faire leur service militaire. Mais il y a un nombre quand même d'oppositions, alors en acte, dont les femmes en noir, mais il y a beaucoup d'autres mouvements.
On a d'abord fait un choix qui était de séparer l'opposition dans l'armée, étant donné la place que tient l'armée dans la société israélienne depuis sa fondation, mais notamment en ce moment, de séparer les diverses expressions des mouvements réfractaires dans l'armée des mouvements militants de la société civile. Alors, c'est un choix parce qu'on voulait faire une place très particulière à l'armée, qui est fondamentale, hein, qui est regardée quand même, qui est très importante. Maintenant, dans la société civile, il y a d'innombrables mouvements. Et de nouveau, problème de choix, on ne pouvait pas parler de tout le monde, on pouvait se contenter parfois d'évoquer. J'ai presque envie, là, pour rattraper des choses, de parler du travail que font les médecins pour les droits de l'homme en Israël, parce qu'on en parle un tout petit peu par le biais d'un article.
Les médecins israéliens, confondre avec médecins du monde ou médecins
Non. Ce sont des médecins israéliens qui se sont organisés pour travailler en Israël. Ce sont eux qui ont réussi à faire condamner la torture officiellement en Israël, d'abord. Ça a été leur travail. Ce sont eux qui s'occupent aujourd'hui du travail des immigrés qui viennent travailler en Israël, qui n'ont aucun droit, aucun papier, aucun accès aux soins. Ils ont une clinique pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils font un travail social extraordinaire.
Les immigrés qui parfois meurent dans les attentats.
Qui meurent dans les attentats.
Comme on l'a vu récemment.
Ce qui les a mis en lumière aujourd'hui.
Une organisation, une autre qui est, c'est Taïouch, Michel Siboni.
Taïouch, c'est un mouvement qui est très porteur d'espoir en Israël et en Palestine, parce qu'au fond, c'est le mouvement qui refuse l'apartheid. C'est fondamentalement... Taïouch en arabe, ça veut dire la vie ensemble. C'est même pas vivre ensemble, c'est la vie ensemble. C'est un état de fait. Et ils refusent l'apartheid de tous les points de vue. Et l'apartheid, et la séparation du « eux chez eux, nous chez nous », et la séparation à l'intérieur même d'Israël. Donc c'est un mouvement de juifs et d'arabes et de palestiniens d'Israël qui veut affirmer sa solidarité avec ce que vit la population palestinienne des territoires. Ils organisent donc des convois humanitaires, c'est vrai, de vivres, de couverture, d'argent, pour apporter... violant la loi de ce fait d'ailleurs, parce que Michel disait tout à l'heure, on peut y aller dans les territoires parce que quand on veut passer, on passe. On veut passer, on passe, mais c'est interdit. Et si on est arrêté, on est passible de prison quand même. C'est donc pas une opération facile. Donc on a choisi de parler de cette association et de décrire une de ses actions pour montrer que acheminer un convoi avec quelques camions et quelques dizaines de voitures vers un village dans les territoires occupés, c'est se faire arrêter plusieurs fois par l'armée. C'est se avoir droit à des PV pour et à des procès pour les conducteurs des camions. C'est aussi cette tentative de séparer les Arabes et les Juifs qui viennent ensemble d'Israël pour pouvoir traiter les Arabes d'une autre manière. Toute cette manière-là est très importante. C'est un mouvement d'ailleurs qu'on a repris en France pour quelques associations. C'est très important de pouvoir vivre ensemble quand même.
Alors il y a une autre organisation qui s'appelle Marksom Watch.
Ça veut dire observatoire.
Marksom, ça veut dire barrage.
Marsom, ça veut dire barrage.
Ça fait déjà quelques années qu'ils observent ce qui se passe au barrage.
Ce sont des femmes. C'est leur particularité. Ça fait partie.
Les femmes sont très engagées, hein, quand même. On les retrouve dans les femmes noires.
C'est pourquoi Michel avait fait le choix de mettre les femmes d'abord en premier et grouper les organisations femmes, à part. De même qu'on a mis les soldats à part, les organisations femmes, parce qu'elles ont un rôle très spécial et central.
De longue haleine. Ça fait longtemps que les femmes se battent en Israël pour la paix. Ça fait longtemps qu'elles ont des liens avec les Palestiniennes de l'intérieur et des territoires occupés. Ce sont de nombreuses associations qui se sont coalisées dans une coalition des femmes pour une paix juste. Et on a essayé un petit peu de montrer divers points.
longue haleine, ça pourrait être l'expression à rapprocher de ces voix dissidentes en Israël. Le bouquin s'intitule « À contre-cœur », Michel Warshawski, Michel Siboni. Donc une soixantaine de textes de des voix dissidentes en Israël, histoire de casser un peu chez nous, en France, le chantage à l'antisémitisme contre tous ceux qui essayent d'avoir un regard un peu critique sur l'actuel politique israélienne. Merci à Michel Siboni, Michel Warshawski. Je rappelle un autre bouquin de Michel Warshawski, Sur la frontière, c'est chez Stock. Et puis le bouquin d'Amira Haas, dont nous avons, donc, que nous avons évoqué, qui s'intitule Boire la mer à Gaza, c'est aux éditions La Fabrique. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Michel Thomas, assistante Joël Levert, le répondeur c'est Christophe Imbert, le numéro c'est 01 56 40 37 37, assistant de réalisation Coyenne Guyenne, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.